Esprit.
Entendre.
Esprit.
Comprendre.
Revue Esprit.
Revue Esprit. Entendre le monde qui vient.
Non seulement les arts entrent comme un élément non négligeable dans toute description d'une société, mais encore ils manifestent au grand jour ce qui ne peut être saisi par aucun autre moyen. Albert Béguin, novembre 1950. Vous écoutez Au grand jour, le podcast culturel de la revue Esprit, qui vous emmène à la découverte des œuvres et des artistes, là où les arts rencontrent leur public. Aujourd'hui, Mathieu Fèvre-Issali s'entretient avec Rachel Flore Pardo pour parler du film « Je verrai toujours vos visages » de Jeanne Herry.
Après, on ne va pas se mentir, la justice restaurative, c'est un sport de combat. C'est tout ce que notre époque déteste.
Il y a quelques mois, sortait le film « Je verrai toujours vos visages », dans lequel Jeanne Henry, la réalisatrice, mettait en fiction une expérience de justice restaurative. Cette pratique, ce mouvement, qui a émergé dans les années 70, visait à dépasser l'approche coercitive de la justice pénale, tout autant que l'imaginaire de criminels à réprimer ou de victimes passives. Au contraire, la justice restaurative instaure un dialogue entre des auteurs et autrices d'infractions et des victimes, au sein d'abord associatifs, de cercles et de conférences. Et c'est le cercle des expérimentations françaises en la matière, mené par des associations et l'administration pénitentiaire depuis 2014, que donne à voir le film de Jeanne Henry. Rachel Flore Pardo est avocate, défenseuse d'auteurs, d'autrices d'infractions et de victimes. Elle est également une avocate engagée dans la vie de la cité, poursuivant la cause féministe contre les violences sexuelles et sexistes, et contre le cyberharcèlement également, au confluent des questions éthiques de notre temps, de la mobilisation contre les violences de genre et de la place des réseaux numériques dans nos vies. Nous avons voulu échanger avec elle à propos de ce film qui parle aux juristes, mais aussi aux citoyens, à la citoyenne, puisqu'il parle de justice, qu'il parle de service public comme le précédent film de Jeanne Henry, Pupille, qui montrait la protection de l'enfance, et ce film qui parle enfin d'écoute et de parole, de trajectoire de vie et de nos manières de les mettre en récit, d'une narration sensible au confluent entre le politique, l'intime et l'institution.
Salut.
Ça va ? Allez. Roule ma petite poule. T'as coupé tes cheveux ?
Oui, c'est Martine qui m'a fait un petit rafraîchissement.
Ah, c'est bien. Mais un peu plus long en bordel, ça te va bien aussi. T'es toujours bien.
Rachel Flore Pardo, qu'avez-vous ressenti en regardant ce film ?
Moi, c'est un film qui m'a donné un immense sentiment d'espoir. J'ai vu ces personnages tirer de la justice, finalement, parce qu'on appelle ça la justice restaurative, quelque chose que je ne vois pas forcément dans le quotidien de ma pratique d'avocate. On se parle aujourd'hui alors que Robert Badinter est décédé il y a quelques jours et qu'un hommage national lui sera rendu demain. Robert Badinter, il a permis que la justice ne tue plus les hommes et les femmes. Mais aujourd'hui encore, la justice les abîme. Et ce qu'on voit dans ce film, c'est que, à travers ces échanges entre les auteurs et les victimes d'infractions, eh bien, ceux qui s'étaient retrouvés un jour confrontés à la justice, que ce soit dans l'une ou l'autre des qualités, parvenaient finalement à se reconstruire et à avancer. Et c'est en ça que je trouve que c'est un message d'espoir, comme, en fait, une forme de réconciliation possible. Voilà ce que nous dit ce film, c'est-à-dire que en s'en donnant les moyens, dans certains cas, lorsque ça s'y prête, on peut retrouver un dialogue et ensuite avancer ensemble. Donc moi, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, je l'ai aussi beaucoup apprécié, je trouve que c'est un film en cela d'utilité publique, parce qu'il démocratise une notion assez technique du droit, qu'est la justice restaurative, qui était un concept qui était non seulement peu connu des justiciables, mais aussi peu connu des juristes, des avocats, des magistrats, et peu mis en pratique en France, en réalité. Je trouve que l'intérêt de ce film, il est vraiment là, c'est-à-dire de montrer qu'il existe dans certains cas, une autre voie qui peut être utile, celle de la justice restaurative.
Effectivement, on pourra reparler de votre pratique d'avocate. Et je verrai toujours au visage, monte des paroles en cercle, en huis clos, d'auteurs et d'autrices d'infractions, de victimes, avec, je crois, l'intelligence de ne pas montrer de flashback, de ne pas montrer leur parcours en dehors de cette pratique et de se concentrer dans la tension de l'échange, dans la tension de la parole. Et il me semble que le parallèle est assez frappant avec le film de procès, où dans le film de procès, on voit beaucoup l'avocat ou l'avocate qui parle au nom d'autres personnes, qui les défend, c'est son rôle. Mais est-ce que vous avez l'impression, vous, que c'est un décalage dans le film de procès avec le métier d'avocat ou d'avocate tel qu'on peut l'exercer aujourd'hui? Et est-ce que vous, dans votre métier, dans votre profession, vous avez le sentiment de pouvoir écouter et comment?
C'est parfois compliqué d'avoir le temps d'écouter, d'avoir aussi le temps de se faire entendre. On est quand même dans un moment où, même si jamais autant de moyens n'ont été consacrés à la justice en France, néanmoins, on se trouve parfois dans des situations où les rôles des audiences sont surchargés, où les audiences de comparution immédiate, ça arrive fréquemment à Paris qu'elles se terminent en plein cœur de la nuit, vers 3, enfin, ça m'est arrivé de sortir d'audience à 4 heures du matin. Donc, c'est des moments où, en fait, on peut parler, mais on n'est plus vraiment entendu. Et en fait, pour moi, le temps du procès, le temps de l'audience, c'est un temps, en tout cas pour les gens que j'accompagne, qui est vraiment précieux, qui est considéré comme important. Et bah, c'est dingue ce qui se passe dans un procès. Et c'est quelque chose qui est assez bien transcrit dans les films sur des grandes affaires judiciaires qui auraient pu marquer notre pays. C'est l'espèce de huis clos qui existe. C'est-à-dire que pendant un moment donné, il va y avoir ces personnes, ces femmes, ces hommes, magistrats, greffiers, avocats, et puis les justiciables qui seront là, qui vont s'enfermer dans cette pièce pour discuter de la vie d'un homme, d'une femme, de ce qu'il ou elle a fait pour se retrouver là aujourd'hui, de comment il ou elle vit depuis ce qu'il a subi ou ce qu'il a fait. Et en fait, c'est ainsi que notre société a décidé de juger les hommes et les femmes. Et là-dessus, je trouve en effet qu'on retrouve un peu cette dynamique dans ce film, Je verrai toujours leur visage, c'est que on est aussi dans cette espèce de huis clos où, en fait, par les échanges qui vont se nouer entre ces auteur et victime d'infraction, il va y avoir ils vont se retrouver finalement dans une sorte d'humanité commune, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils se regardent tous d'un endroit et qu'en fait, ils ont un endroit où ils peuvent se retrouver. Et c'est aussi ça que je trouve assez symbolique, le fait qu'ils soient en fait tout au long du film assis en rond. Il y a comme une espèce de centre vers lequel ils s'approchent au fur et à mesure. Et moi, c'est quelque chose que je trouve assez marquant dans ce film. Ce que je trouve marquant, c'est que, d'accord, on voit pas l'infraction se commettre. On est dans le temps qui suit. Néanmoins, on voit le traumatisme qui se poursuit. Et ça, je trouve ça très présent dans ce film. On voit qu'en fait, ça laisse des traces. Agresser ou être agressé, on s'en remet pas comme ça. Et pour beaucoup, en tout cas, c'est ce que certains exemples du film le montrent, ce sont des choses qui vont les poursuivre toute leur vie. Ça, je crois qu'il faut en avoir conscience, et je crois et je crains que trop souvent, la justice laisse une forme d'insatisfaction de toutes les parties. Donc il y a encore des combats menés pour les droits des victimes et les droits des parties civiles. Et je crois que c'est important de le faire parce que tant qu'il y aura cette espèce de goût d'insatisfaction à l'issue des procès, des affaires judiciaires, eh bien, ça continuera de fragiliser la confiance que les justiciables, que les citoyens sont susceptibles de porter dans la justice. Et pour autant, c'est le lien de confiance entre les citoyens et la justice qu'on doit absolument tout faire pour réparer parce que sinon, c'est quoi ? Si quand il vous arrive quelque chose de terrible, quelque chose de violent, vous vous dites qu'en fait ça sert à rien d'aller voir la justice puisqu'elle pourra rien pour vous, vous allez où ? Moi je suis assez convaincue que chaque faille de la justice alimente le tribunal médiatique et je crois que ce tribunal médiatique, il offre en réalité aucune solution satisfaisante, ni pour la victime, ni pour le mis en cause, ni pour la société.
C'est les victimes qui rencontrent des détenus, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
C'est un dispositif qui offre une possibilité de rencontre entre un groupe de personnes auteurs d'infractions et un groupe de personnes victimes, autour d'une même typologie de crimes, en l'occurrence ici les vols avec violence.
Ce qui est très intéressant et qui fait tout à fait écho à cela dans le film, c'est que les auteurs et autrices d'infractions montrent des vulnérabilités, montrent qu'ils et elles n'ont pas compris les violences qui ont pu être commises, pas seulement physiques mais également psychologiques, et comment ces personnes ont pu également les traverser des difficultés dans la commission des infractions, et à l'inverse, des victimes qui, assez clairement dans le film, disent bien qu'elles ne sont pas là pour guérir, pour oublier, puisqu'on n'oublie pas, mais qui sont là pour comprendre mieux et comprendre ensemble. Et ça, c'est une dynamique qui me semble absolument centrale également dans la justice restaurative, telle que le film la montre. Et ce qui me semble également important peut-être, c'est le fait que le film, évidemment, fait penser à la justice en tant qu'institution, à la procédure judiciaire et à l'insatisfaction dont vous parlez, mais il parle également à la société et aux nombreuses personnes qui sont allées voir le film, et à la représentation qu'on a de ce qu'est une victime ou de ce qu'est, à l'inverse, un ou une criminelle. Et ce qui me semble, c'est qu'il voilà, y a un échange et presque une complexification des parcours et des trajectoires qui est comme ça donnée à voir.
Oui, je trouve ça très intéressant ce que vous dites, parce que je travaille beaucoup, vous en parliez, dans les affaires de violences sexistes et sexuelles. Et c'est vrai que c'est des dossiers où, de façon quasi systématique, va y avoir une forme de sentiment de culpabilité qui va aller envahir la personne qui est victime de l'infraction qu'elle a subie. Et cette forme de culpabilité, elle est notamment liée au fait qu'elle ne correspondrait pas à certains standards qui seraient ceux de la victime idéale. Pour moi, c'est absolument déterminant aujourd'hui qu'on prenne à bras le corps ces stéréotypes. Ces stéréotypes qui, de la bonne ou la mauvaise victime, comme le stéréotype du bon ou du mauvais viol. Les clichés, il faut s'en débarrasser. Parce qu'en fait, ils nous empêchent d'appréhender la réalité des violences sexistes et sexuelles. Et donc, la diversité des violences sexistes et sexuelles. Ils empêchent trop de victimes de parler, ils les laissent se murer dans le silence. Et nous aussi, en tant que témoins, et la justice, en tant qu'institution qui va être confrontée à ces cas de figure, elle risque d'en laisser de côté si jamais elle s'attendait seulement à trouver tel ou tel type de schéma. Alors, je trouve ça très important qu'on vienne montrer la complexité qu'il peut y avoir. Moi, je veux dire que toutes les personnes qui s'estiment victimes de quelque chose qui est constitutif potentiellement d'une infraction pénale, devrait saisir la justice. Je crois que dans un état de droit, c'est ce qu'on peut, en tout cas, espérer. C'est le rôle qu'on donne à la justice. Et quand on parle d'ailleurs de violence en ligne, je trouve que très souvent, on s'habitue, en fait, à recevoir des messages de haine, à être témoin de messages de haine. Je crois pas qu'on devrait s'habituer. Je crois pas. Vous allez me dire, il y en a trop, on peut pas tous les soumettre à la justice, mais pour autant, à ce moment-là, il faudrait trouver d'autres solutions. Mais je crois pas qu'on puisse rester non plus les bras croisés face à cette haine qui se déverse.
Du coup, on commence par quoi ?
Comme vous le souhaitez.
Est-ce que vous avez besoin de connaître tous les faits, précisément ?
Dites-moi ce que vous pensez qu'il faut que j'entende pour vous accompagner au mieux dans la démarche que vous entreprenez.
Bon, je me lance. Ça va peut-être être un petit peu long.
Prenez votre temps.
On voit bien dans le film des victimes qui estiment ne pas être victimes ou être moins victimes. Miu Miu, par exemple, qui joue dans le film, joue une femme qui s'est fait agresser dans la rue pour faire voler son sac à main et qui, dans son récit, dans la manière dont elle met en récit son traumatisme et la phobie sociale qu'elle a développée, n'arrête pas de dire « Mais moi, je suis moins une victime que vous autres autour de ce cercle, parce que moi, on m'a juste volé mon sac à main. » Alors qu'on voit le traumatisme, on voit la personne qui ne sort plus de chez elle. Et ça me semble vraiment effectivement assez moins crucial.
Ouais, et c'est quelque chose qui, encore une fois, je le remets sur cet exemple-là, qui est un exemple que je connais bien, mais qu'on retrouve beaucoup dans les affaires de viol. Ce sentiment de dire « Ah non, mais moi, c'était juste ça, c'était juste, c'était pas violent, ou finalement, moi, ça va. » Comme si, en fait, la victime était obligée d'être effondrée. Comme si elle n'avait pas le droit, finalement, d'aller. Et je crois aussi qu'on a une vision dans notre société qui, finalement, peut-être aurait tendance à inciter les victimes pour être crues à s'effondrer.
Non, bien sûr, je comprends.
Ah bon ? Tu comprends ? Vraiment ? Ah, pardonnez-moi, je vous ai interrompu, mais vous n'étiez pas très bien lancé, puis là, c'est pas terrible. Michel, Tu ne comprends pas ce que cette personne a vécu. Personne ne peut le comprendre. Tu peux tenter de l'imaginer. C'est tout.
Oui, oui, je sais, mais elle avait l'air tellement mal, j'ai voulu la soutenir.
Mais soutiens-la en l'écoutant, c'est ce que tu peux faire de mieux.
Une critique qu'on peut adresser parfois au cinéma de Jeanne Henry, c'est que c'est un cinéma social qui montre pas de grandes luttes. C'est un cinéma social dans lequel on montre, elle montre des réalités et des combats du quotidien, mais sans l'acmé de la lutte sociale telle qu'on l'imagine au cinéma. Et c'est notamment une critique qui a pu être formulée au film, c'est de finalement de montrer une parole apaisée des deux côtés et de pas montrer d'effondrement justement, que ce soit des victimes ou des auteurs, pas montrer une combativité, et le film était accusé d'une certaine mièvrerie, et ça fait un peu penser aussi aux critiques qu'on adresse à la communication non violente ou à une forme de cliché qu'on aurait de ce que devrait être une lutte.
Je ne crois pas que la justice restaurative soit la solution pour tous les cas de figure. C'est peut-être ça l'écueil du film, c'est qu'en effet, dans tous les cas de figure qui sont illustrés, ça semble plus ou moins fonctionner. Néanmoins, je crois qu'il ne faut pas voir ça comme une solution miracle qui s'appliquerait pour toutes les victimes ou tous les auteurs d'infractions. Non, ça s'applique dans certains cas, dans un cas où d'abord la personne, l'auteur ou la victime a envie d'aller vers ce processus-là. Je crois que l'envie est déterminante pour le fonctionnement de ce type de cercle de parole et aussi pour derrière que ça permette véritablement d'avancer. Et voilà, moi je crois pas à une solution miracle, il y en a pas. Mais je crois que par contre c'est important d'inclure cette option, d'inclure cet outil quand on pense aux solutions qu'on pourrait proposer aux uns et aux autres. Et après, libre à chacun de choisir selon sa perception, selon son envie.
Monsieur Delarme ?
Oui.
Judith.
Enchantée.
Tu m'entends bien, là ?
Très bien.
Alors, j'ai rencontré Benjamin, le grand frère de ma victime, Chloé.
Je t'écoute.
Il dit oui, qu'il est d'accord pour rentrer dans le processus. Même s'il est choqué de savoir qu'elle ne veut plus le croiser, il veut comprendre pourquoi. Et aussi, pourquoi elle a porté plainte. Ça lui a fait du mal.
La question qui est ouverte aussi avec ce film qui met l'accent sur la justice restaurative, c'est comment on réinsère l'auteur. Parce que j'ai beaucoup parlé des effets que ça pouvait avoir sur les victimes, mais pour l'auteur alors. Et je crois que c'est très important d'introduire ces formes d'espace d'échange et de discussion, parce qu'aujourd'hui, je ne crois pas, quand on regarde les statistiques en lien avec la récidive, que la prison réussisse son pari. Je ne crois pas que la prison aujourd'hui permette qu'à l'issue d'une détention, eh bien, telle ou telle personne soit davantage en mesure de respecter nos lois, davantage en mesure d'être intégrée dans notre société. Évidemment, la surpopulation carcérale y est pour quelque chose, parce que non seulement les conditions de détention sont souvent indignes, avec des espaces extrêmement petits dans lesquels les personnes sont serrées, des états de salubrité qui ne sont parfois vraiment pas respectables en réalité. Et je ne crois pas que ce soit en traitant les gens ainsi qu'on puisse vraiment espérer faire d'eux des hommes meilleurs. Et l'autre chose, l'autre difficulté que pose la question de la surpopulation, c'est l'accès aux activités. L'accès aux activités qui permettent de se projeter dans un avenir plus stable, qui permettent une reconstruction. Et en fait, ces cercles de parole, ils peuvent permettre cela. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on ancre davantage dans notre société cette idée qu'en fait, un jour ou l'autre, et c'est normal, parce qu'ils doivent conserver une forme d'espoir de devenir un jour un homme ou une femme meilleure, les auteurs d'infractions devront revenir dans la société. Comment on fait en sorte de les préparer pour que leur retour se passe de la meilleure manière possible? Et je crois que la justice restaurative offre une solution intéressante.
Oui, la parole des auteurs d'infractions dans le cercle qui est montré par le film est très intéressante, puisque on a parfois les auteurs qui expliquent aux victimes ce que c'est qu'un agréminel. Et ce qui est intelligent dans le film, c'est qu'il ne cherche pas à s'excuser. Certains le cherchent, et d'ailleurs, on les reprend, on leur dit « Mais non, mais t'as quand même choisi de faire ça, alors, dans des conditions sociales, mais moi, j'ai les mêmes, et ça, c'est intéressant aussi. » Les victimes disent « Mais moi aussi, etc. » Et puis, certains auteurs qui disent « Mais nous aussi, on veut comprendre des victimes, notamment celui qui est joué par Dali Ben Salah, qui est un braqueur, et qui est très clair pour dire « Mais la prison, c'est vraiment dur, et on s'est beaucoup marré pendant le Covid, en voyant les gens qui étaient enfermés chez eux et qui avaient des difficultés, bah nous, c'est notre quotidien. » Et qui dit « Mais moi, voilà, j'ai fait du mal, mais je le comprends pas. Je le comprends mal et c'est pour ça que je veux discuter avec vous pour voir un peu ce que vous, ça vous fait. » Et c'est très intéressant, ces renversements toutes ces entailles à l'idée d'une logique implacable, en fait.
Et je crois que si on veut vraiment arriver à un stade où, en fait, la récidive baisse, où moins d'infractions sont commises, cette prise de conscience du mal qu'ils ont causé est absolument déterminante. Et que tant qu'il n'y aura pas cette prise de conscience, il y a ce risque que la peine soit vécue tout simplement comme une injustice. Alors que aider à prendre conscience du tort qu'ils ont causé à autrui, ça peut les aider à faire ce chemin, de comprendre pourquoi ils se retrouvent ici, de se remettre en question suffisamment pour derrière pouvoir s'intégrer davantage dans la société.
C'est pour ça que je trouve que ce film est particulièrement révolutionnaire, ou en tout cas qu'en tant que film, il interroge, parce que derrière un aspect de discussion, d'horizontalité, il pose des questions très difficiles, sans doute difficiles à admettre pour beaucoup d'entre nous, qui est celle d'une parole égale entre les victimes et les auteurs, qui est celle de la réinsertion dont vous parlez, qui est celle d'une vulnérabilité, qui est celle des colères et de l'intime, et qui va à l'encontre des clichés que l'on a à la fois donc sur les victimes et à la fois sur les auteurs d'infractions, dans l'idée non pas d'effacer ce qui s'est passé, mais d'essayer de vivre au-delà de ce qui s'est passé et de continuer tout en luttant contre les infractions et contre les vulnérabilités à vivre ensemble.
C'était Au grand jour, un podcast de la revue Esprit, réalisé avec le soutien de la Fondation Gulbenkian. Préparation, Mathieu Fèvre-Issali. Réalisation, Léobardo Arango. Esprit est une revue indépendante. Pour la soutenir, abonnez-vous.